Je vous propose pour cette session qui s'appelle l'espace politique de l'art. Je ne ferai pas une introduction pour gagner du temps, seulement de dire qu'il me semble très utile les conférences qu'on a déjà écoutées, la table ronde antérieure, pour encadrer cette discussion qui est sur un sujet plus encadré d'une partie dans le sud. C'est un regard du sud sur la globalité, et d'autre partie, c'est aussi un regard qui est très intéressant, très important, de l'art dans son rôle critique, dans son rôle critique dans des sociétés. Et aussi, c'est une forme de création qui c'est à la fois une réaction contre les choses qui se passent, les injustices, la critique, mais il doit tenir compte aussi, je crois, de ce que François Julien nous a dit entre la transformation silencieuse, les changements lents et, de notre côté, les événements sonores. Et on va parler beaucoup des sonores parce qu'on va parler aussi de la musique ici. Bon, je voudrais donner la parole en premier lieu à Françoise Vergès. Elle est titulaire de la chaire Global South au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. A publié de nombreux ouvrages sur la mémoire de l'esclavage, la décolonisation et la postcolonialité. Elle est auteure de films, a été présidente du Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Et a élaboré le programme scientifique et culturel d'un projet de musée à La Réunion. Elle va nous parler de la récréation du monde à partir d'une vue du sud global, d'une sphère géographique, des nouvelles expressions artistiques liées à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'océan Indien et Pacifique, dans lesquelles on cherche à reconfigurer la cartographie du monde échappant à la logique, à la vieille logique nord-sud. Elle le fait à partir de l'océan Indien en s'appuyant sur l'existence millénaire des circulations, des sens, d'images et des sons. Je laisse avec la parole à Françoise.
Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de m'en tenir aux 20 minutes. Les organisateurs du colloque donc, nous ont invités à regarder ce qui se crée, ce qui se recrée dans l'action conjointe ou non des sciences sociales et des arts. Et c'est vrai que dans cette perspective, j'ai voulu parler des Suds, mais aussi de l'importance grandissante que prend la création des musées, de ces espaces, de la demande de musées autour de cultures minorées ou d'histoires oubliées. Donc, je ne parle pas du mouvement qui est très important, lui aussi, de la création de grands musées d'art en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, ou de franchises de musées nationaux comme le Guggenheim ou le Louvre, mais du mouvement qui réinvestit le musée comme un espace de recréation du monde à partir de récits, de sons, d'objets d'art contemporain qui cherchent à figurer, représenter, exposer des mondes qui ont été marginalisés ou effacés par l'histoire coloniale, par le génocide, le massacre, la destruction. Et c'est une demande donc qui est intéressante. Les notions de restitution, de réparation, de réinterprétation, de transmission y sont centrales et ont renouvelé profondément donc le monde des musées. Et la muséologie dans ce mouvement est vue donc comme une technique épistémologique, une pratique discursive au sens de Michel Foucault, où les modes d'explication sont sous contrôle et donc il s'agit de proposer des modes d'explication plus ouverts. Et la création d'un musée est perçue comme nécessairement un acte politique et éthique dans cette situation.
Alors, il est la question des musées, moi j'ai trouvé ça intéressant, notamment parce qu'en fait, le Conseil international des musées recense au moins plus de 55 000 musées dans le monde, et avoue d'ailleurs ne pas pouvoir en donner le nombre exact, puisqu'il s'en crée finalement tous les jours, sinon tous les mois, et même des tout petits musées, c'est-à-dire pas ceux qu'on voit sûrement sur la carte ou dans les guides touristiques. C'est un mouvement global où le musée est présenté comme un espace qui va remettre en cause une scène théâtrale où étaient mises en scène des relations causales, historiques et théologiques placées dans un continuum qui ignore le contexte social. Et ce mouvement s'inscrit dans un terrain théorique sur les musées qui avait considérablement changé dans la deuxième partie du XXe siècle, que je vais retracer un peu rapidement, où trois caractéristiques sont remises en question: l'authenticité des objets, l'inaliénabilité des collections et l'autorité du discours. Donc le rôle du musée dans la construction de la modernité occidentale est aussi étudié et questionné, et il y a d'intenses débats qui ont lieu au niveau local et international sur le rôle de l'objet, de l'archive, de la mémoire, du patrimoine, de la place de l'artiste dans les musées, la représentation des autres, sur le musée national, musée ethnographique, et sur le musée aussi comme centre commercial et touristique aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie du XXe siècle, ce qui compte là justement dans cette révision, dans ces nouvelles formes de musées qui émergent ces dernières, on pourrait dire, 15-20 années, c'est les fonds. Alors on a un deuxième temps, donc on a cette invention du musée dans l'Europe, et puis l'effondrement des empires coloniaux et la création de nouveaux États-nations va entraîner la création de musées dont le but est de mettre en scène les cultures et les luttes des peuples indépendants, donc dans les années 1960, 1950, et de restituer un passé. Mais parallèlement à cette réflexion, cette création, se continue un débat sur la complicité du musée occidental avec le colonialisme et l'impérialisme, et artistes, historiens d'art ou commissaires d'exposition vont mettre en lumière la relation entre l'ordre colonial et impérialiste et l'élaboration de formes modernes de représentation et de savoir, entre l'ordre colonial et la représentation des personnes qui habitent ces pays, les minorités, les peuples et tous ces peuples premiers, qui eux-mêmes, d'ailleurs, demandent à investir l'espace muséal, à faire partir des commissariats d'exposition, à étudier les collections, à répertorier les objets qui appartenaient à leur communauté et à réviser les textes historiques et ceux qui accompagnent la présentation des objets. Donc, les modes d'installation sont revus, des programmes éducatifs sont créés. Dans le même temps, parce qu'il y a donc plusieurs choses qui se passent en même temps, les réflexions sur la Shoah, les génocides, le totalitarisme, la dictature ou les régimes racistes entraînent à leur tour la création de musées ou de mémoriaux. Et artistes et architectes sont alors invités à proposer des architectures de la mémoire dont l'objectif est de provoquer chez les visiteurs deux messages leur viennent en tête: souviens-toi et fais en sorte que cela ne se reproduise pas. Donc deux messages, c'est nouveau, parce qu'avant c'était plutôt « souviens-toi ». Donc on peut penser au musée de l'Holocauste à Washington, évidemment, mais aussi le Goulag Museum à Perm 36, le Centre pour la préservation de la mémoire politique au Brésil, le musée de l'Apartheid à Johannesburg, le parc de la mémoire à Buenos Aires, le musée des génocides à Tuol Lang au Cambodge. Donc c'est des exemples de ce mouvement qui va entremêler mémoire, art, mémorial, histoire et leçons politiques. Un autre mouvement aussi dans cette même période, c'est les musées dédiés à des migrants. Alors, l'histoire des migrants, comme le Tubman Museum à New York, ou à des groupes sociaux, comme le musée des travailleurs de plantation de thé au Sri Lanka, ou à des oubliés et des marginaux, comme le Parramatta Female Factory Precinct Project en Australie, qui était un site d'incarcération pour plus de 30 000 enfants. Et puis, encore d'autres musées, comme le musée du District 6 à Cape Town, qui fait revivre un quartier multiracial qui avait été rasé par le régime de l'apartheid et à partir des mémoires des habitants du quartier. Donc, on voit à quel point les missions des musées se diversifient et deviennent à la fois des espaces d'éducation, de documentation, de classification, de débat sur des sujets contemporains et des espaces de représentation. Au début du XXIe siècle, donc encore un autre moment, des artistes sont invités à explorer, à intervenir sur les collections nationales de musées d'ethnographie et d'histoire. Et par ailleurs, d'autres musées, de nouveaux musées, sont créés pour répondre à la demande de communautés de voir des lieux consacrés à leur histoire et à leur culture. Alors, on a le musée des Native Americans à Washington, mais aussi celui qui va s'ouvrir en septembre, de l'histoire et de la culture des Africains américains. Et d'autres nouveaux, alors là, plus petits, plus éphémères, sont consacrés, qui sont même éphémères, qui ne durent pas toujours très longtemps, qui sont consacrés à la lutte contre l'invisibilité des personnes jetables ou des victimes de la globalisation, comme le musée des migrations à Lampedusa, qui avait été créé, qui va rassembler des objets qui étaient des photos, des petits objets du quotidien, des vêtements, des Corans, des chaussures d'enfants, des pièces de monnaie, des passeports, qui avaient été donc rejetés sur les rivages avec les corps des migrants noyés, et qui témoignaient là de l'existence d'hommes et de femmes devenus totalement anonymes. Donc on voit l'élargissement d'un mouvement de muséification qui va toucher même des quartiers qui sont touchés par des catastrophes naturelles, comme le tsunami de 2004 en Asie, où vous avez des quartiers qui ont été gardés comme ça au Sri Lanka pour qu'on voit ce que ça a donné, ou même le cyclone Katrina à New York. Donc tous ces mouvements bénéficient des théories postcoloniales, des cultural studies, des subaltern studies, des visual studies, qui vont remettre en question profondément le cadre national de l'exposition, c'est-à-dire même de ceux des États-nations indépendants de l'époque de la décolonisation, qui sont donc accusés de reproduire une même espace et une même périodicité qui efface donc différences et d'autres formes d'émergence. Et ce qui est demandé à ce moment-là, c'est que tout ce découpage en siècles, que ce soit le siècle européen ou les deux autres, soit questionné et que l'effort porte sur l'élargissement du champ sur une micro-histoire transversale dans laquelle des événements et des processus simultanés vont être examinés. Donc, cette approche va connecter plusieurs mondes et ouvre, évidemment, permet de s'affranchir des cultures enracinées, de s'émanciper de la passion des continuités, continuité de la langue, du sol, de la tradition, et de retracer des routes de traverse transethniques, transnationales, et de multiplier les points d'observation. Donc dans l'objectif, dans ces nouvelles formes de musées vues des Sud globaux, ce n'est pas une histoire comparative qui vise à juxtaposer des récits nationaux ou des récits civilisationnels, ni une histoire des relations internationales, ou les conflits, mais de repérer les interactions, les mouvements transversaux, le rôle joué par les exils, les idées, les diasporas, pour ne pas justement, comme le proposait Édouard Glissant, d'avoir un rapport trop proche à des périodes, car, dit-il, c'est une ruse de la pensée assimilée. Il faut savoir appréhender l'inattendu et l'imprévisible. Donc, artistes, chercheurs sont tous convoqués pour voir comment faire ça, sans idéaliser évidemment la fluidité ou le mouvement permanent, ni de faire croire à une linéarité. Donc, vu du Sud global, le Sud n'est plus une notion géographique, mais un espace-temps construit par les globalisations, qui les construisent comme des périphéries, et la pratique muséale est réinvestie comme un espace où mémoire, histoire et art sont convoqués pour échapper à ce que Simone Jamy a appelé la victimitude. Donc à la recherche de cet espace brouillon, parfois éphémère, artistes et chercheurs en social reconfigurent le rôle de la mémoire, qui est essentiel dans des territoires où elle n'est pas si tangible que cela, où même sa tangibilité relève de l'aberration ou du vestige colonial. Donc cette réflexion tend à reconfigurer espace et temps de la mémoire et de l'histoire. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples de ces tentatives. Alors d'une part, des exemples tout à fait très proches de nous, justement géographiquement, d'une production entre sciences sociales et artistes que j'avais organisée d'ailleurs au Collège d'études mondiales sous forme d'atelier. Et puis une troisième exemple. Alors le premier, ça a eu lieu à la suite de toute la discussion qui a eu lieu en 2014 autour de la performance Exhibit B, où des associations avaient demandé l'arrêt de cette performance qui était faite par l'artiste sud-africain Brett Bellay, qui recréait des tableaux vivants de scènes d'esclavage ou de colonisation, et qui est donc étant perçu par des associations comme une forme de non-respect. Alors devant cette controverse qui opposait liberté d'expression de l'artiste et demande de respect de la dignité de personne, je me suis dit comment faire pour figurer, exposer, représenter le corps du refoulé postcolonial. Qu'est-ce que ça signifiait? C'est-à-dire que pouvons-nous faire pour justement ne pas tomber dans cette constante impasse entre liberté d'expression et droit à la dignité, dirions-nous? On a vu que la scène artistique institutionnelle est constamment perturbée par l'introduction de dissensus autour de la représentation du corps du refoulé postcolonial. Et la deuxième, dans notre réflexion, c'était aussi qu'il y a, on pourrait dire, un cas français de la postcolonialité, parce que finalement, il y a quelque chose ici, enfin, je ne veux pas refaire ce que d'autres historiens ont fait, sur qu'est-ce qui bute, pourquoi ce passé ne passe pas. Donc pourquoi cette perception demeure? Pourquoi la création prend comme source le corps du refoulé colonial comme ethnicisé? Très souvent, il y a un présupposé que le corps du refoulé postcolonial doit être ethnicisé, racisé. Et donc, le plasticien, le chorégraphe ou le performeur qui vont essayer de représenter ou de figurer ces choses vont être classés dans la catégorie « diversité ». Ils vont apporter donc de la diversité à la question de la recréation, de repenser le monde. Donc ces deux controverses, il nous semblait urgent de poser les axes d'une réflexion plus poussée sur ce que signifiait donc représenter et figurer. Comment rendre actuel dans sa complexité, son hétérogénéité et sa matérialité le refoulement de ce souvenir déplaisant qui est le moment, les longs siècles des passés coloniales, pas simplement français, hein, et qui fait retour dans le présent. C'était montrer quoi, pourquoi et comment. Dans Exhibit B, l'iconographie coloniale devenait un simple index où on puisait librement et sans fin des images à reproduire. Donc en fait, ça devenait la reproduction sans fin au nom d'une dénonciation qu'on aurait dû faire donc une lecture littérale de la dénonciation de ce qui s'était passé au moment esclavagiste et colonial à travers la reproduction de ces tableaux. Et il est vrai que le monde colonial a produit une telle profusion d'images et de représentations d'un corps ethnicisé, et sexualisé et racialisé qu'il semble qu'il y a une espèce d'attache d'appel à ce corpus constamment renouvelable. Et il est vrai que le corps donc devient un élément central de ce dispositif de la figuration de la représentation. Mais alors, pour moi, donc, c'était comment plutôt proposer des références théoriques au-delà de cette opposition binaire entre liberté d'expression, et comment justement se met, au lieu de constamment pointer le manque et de demander de combler le manque qui existerait dans les musées ou qui ne serait jamais finalement atteint, comment penser à d'autres formes de représentation. À l'issue de ce premier atelier, il a été demandé de faire un second, et qui sera en juin prochain, et qui est cette cartographie d'un espace postcolonial, pour se demander encore une fois comment le représenter et comment revenir encore une fois au cas français comme un espace habité par les Suds. De réfléchir sur la représentation des multiples temporalités et spatialités, que ce soit sur le plan de l'imaginaire, de l'art, des mémoires, des cultures, des expressions culturelles, linguistiques et religieuses, de l'histoire des idées et des idéologies. En général, quand on pense à la carte de la France, on a une carte qui montre un territoire situé en Europe de l'Ouest, qu'on appelle l'Hexagone. Et de temps en temps, dans les manuels scolaires, vous avez sur le côté, dans des petites cases, des territoires qu'on appelle d'outre-mer. Donc cette mise en image d'un centre et de ses satellites met en scène un espace totalement illusoire qui marginalise à la fois la place de la France dans l'Europe et dans le monde, et évidemment la place de ces différents territoires dans leur région Caraïbes, Pacifique, Océan Indien et Amérique du Sud. Elle met à plat une multitude d'espaces, elle les réduit à une abstraction et qui masque les asymétries à l'œuvre. Donc, quelle forme inventer pour représenter la prolifération des récits et de ces espaces non hégémoniques? Donc, la proposition est de dénationaliser la cartographie et de mettre à jour des circulations, des itinéraires, des événements inattendus, imprévisibles, qui vont tracer de nouvelles spatialités et temporalités, dont, par exemple, les camps de réfugiés, les chemins de traverse ou les chemins d'errance. La cartographie, je vais arrêter sur cet atelier. Bon, c'était intéressant. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'était donc ce musée dont j'ai fait partie de l'équipe qui l'élaborait. C'était pendant une dizaine d'années, à l'île de la Réunion, un programme culturel et scientifique d'un musée qui devait raconter et représenter l'histoire du peuplement de cette île. Alors, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de population native sur cette île. Donc, comment raconter, comment représenter ? Et la question s'est rapidement posée, quelle était la période, quel était le temps, quelle était la spatialité qu'on allait en prendre. Le mouvement naturel est toujours de suivre le temps du colonialisme et le découpage européen du temps du monde. Donc on allait commencer quand la colonisation française arrivait, etc. Enfin, c'était ça qui arrivait naturellement. Or, il suffisait simplement de regarder une carte pour comprendre que l'île appartenait au sud global, à un sud où des relations millénaires ont lieu entre l'Afrique et l'Asie et qui tracent des routes, des itinéraires, des temps où apparaissent de grandes villes-ports où se côtoient Africains, Arméniens, Juifs, Arabes, Chinois et Indiens et donc où l'Europe est géographiquement et en périphérie. Non pas inexistante, mais en périphérie. Donc une autre cartographie que celle qui a été imposée par un récit d'ailleurs tardif, hein, le récit colonial est très tardif, apparaît, d'autres temporalités étaient à l'œuvre. Qu'est-ce qui existait de préalable à la colonisation et qui était intéressant à mettre en scène ? Donc en s'appuyant sur le travail aujourd'hui, hein, qui est absolument partout en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, qui révise les frontières du monde justement, on a proposé de prendre le temps des échanges dans l'océan Indien comme découpage de cette histoire de cette île, qui est une île française toujours, hein, et l'espace serait celui des mouvements forcés ou libres des corps à travers donc, les Suds. Donc recréer cet espace-temps, s'appuyer sur une notion du monde vue des Suds et confronté donc à d'autres représentations. Une deuxième question est apparue sur laquelle je voudrais donc conclure, c'était l'absence d'objets. Et la question donc des objets qui se pose d'ailleurs à travers cette réflexion dans les Suds sur la représentation des mondes effacés ou de chapitres oubliés de l'histoire, c'est l'absence d'objets qui témoigne en général de l'histoire de la vie de femmes et d'hommes, hein, qui ont été esclaves, migrants, colons pauvres, soldats, marins, pirates, marchands. Il y a évidemment des objets témoins de la vie des puissants, mais très peu de choses, pratiquement rien souvent, sur la vie des esclaves, des travailleurs engagés, des migrants qui ont emprunté les routes maritimes et terrestres dans ces régions du monde. Par exemple, si on pense au musée de l'esclavage, si vous en avez visité, c'est très souvent des musées remplis des objets du système esclavagiste, c'est-à-dire les fouets, les actes de vente, les instruments de torture, les chaînes, et non pas du tout des objets qui représenteraient autre chose. Donc ce sont plus des musées du système esclavagiste que, effectivement, que c'est tout à fait légitime aussi, pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas des musées sur la vie des êtres humains, des femmes et des hommes qui ont été asservis. Donc comment représenter ces vies et cette question donc de l'objet, c'est-à-dire de s'émanciper justement de l'importance de l'objet qui est donné pour raconter une histoire et pour, comme sur des récits et de création du monde. Comment inventer d'autres formes d'évocation ? On avait donc suggéré de construire un musée sans objet, c'est-à-dire non pas absolument d'interdire l'objet, mais où l'objet ne serait pas central. Ne pas partir de l'objet pour raconter une histoire, mais de partir de dispositifs, d'autres dispositifs, en constante évolution même, et d'introduire même l'éphémère dans l'exposition. L'inattendu et l'imprévisible toujours à venir. De débattre de l'espace-temps proposé même, et de favoriser sa remise en question. En d'autres termes, moins que la préservation que défend l'UNESCO, dans la question des Suds, ce serait un espace où une proposition de découpage autoriserait la prise de chemin de traverse qui intégrerait rapport de pouvoir, création d'inégalités, ce qui signifierait non pas de recréer un temps enchanteur et innocent, mais de mettre à jour des nouveaux d'interactions entre des intérêts et des intérêts divergents, d'introduire la friction comme élément central de la vie sociale et de l'imagination du monde. Merci.
Merci Françoise. Merci.